On devrait s'interroger pourquoi il appelle ces objets matériaux des lignes et pourquoi il dit aussi ces éléments matériaux sont des lignes véritables. On pourrait penser que c'est appeler ça des lignes, c'est pas précis. C'est une espèce de jeu archaïque dans lequel on confond les choses. Donc en fait, il est en train de faire l'abstraction des entités de nature pour les faire apparaître comme des entités de raison. Ou bien, on pourrait penser au contraire, ce que je propose qu'on pense ensemble, que ces lignes que travaille l'architecte, que sont aussi des matériaux, et que la vérité dont il parle, c'est une vérité contingente. C'est-à-dire une vérité qui pourrait être autre de ce qu'elle est. Et que l'effet architectural n'apparaît que lorsque chacun de ces éléments matériels que je viens de décrire, ces six éléments matériels, peuvent devenir lignes. Ou inversement, chaque fois qu'une ligne est à la fois aussi un de ces éléments matériels. La contingence de sa vérité, c'est sa possibilité d'être autre de ce qu'elle est. Alors pourquoi je parle de lignes? Pourquoi dire que ces éléments matériels deviennent dans son architecture des lignes? Moi, je pense que, en fait, ceci a à voir, et là, on revient sur la question que je vais poser au départ, la question de la demeure. On revient sur une particularité de la conformité architecturale. Je disais, une architecture n'est pas appréhensible d'un seul coup. On est dans une architecture, non pas lorsqu'on est dans un cosmos qu'on perçoit tout entier, on est dans une architecture lorsqu'on est dans un lieu particulier et qu'on sent que ce lieu, il est parti d'un tout, mais un tout qu'on ne perçoit pas. Sinon, il n'y a pas d'architecture. Percevoir l'architecture comme un tout, c'est un contresens. Donc, ce qui est important pour juger de l'œuvre architecturale, pour l'inventer aussi, pour juger a posteriori, mais pour l'inventer aussi, c'est de penser les parties et les tout, mais penser ces parties et ces tout aussi comme l'intrasuite. La conformité de la raison d'une idée architecturale, la conformité de l'idée architecturale, ne tient pas à autre chose que cette entresuite des choses. C'est dans la temporalité qu'on peut percevoir cette articulation dans une entresuite des choses. Or, qu'est-ce que c'est que cette articulation? Comment on peut percevoir, cette entresuite si on ne l'aperçoit pas à travers une articulation? Il y a, dans cette idée de l'articulation, des choses à dire. En architecture, on dit parfois, il y a oui ou non de l'articulation entre les différentes parties d'un tout. Moi, je dirais d'une manière un peu plus radicale que dans une œuvre architecturale, tout est articulation. Il n'y a pas des choses à articuler, sinon que tout est constamment articulation. Et que lorsque on définit l'architecture par rapport à ce que les Corbusier appellent acoustique plastique et ce que les anciens appelaient eurythmie, on devrait se souvenir de cette définition qui donne Quatremer de Quincy dans son encyclopédie lorsqu'il fait comprendre que l'harmonie d'une architecture dépend justement de cette puissance articulatoire. Je cherche là la définition des designs comme justement comme discrétion. Je disais donc que la vérité d'une architecture apparaît lorsque les lignes, les particularités matérielles peuvent devenir lignes et lorsque les lignes peuvent devenir particularités matérielles. Et je dis ça que c'est seulement à ce moment-là que toute architecture apparaît comme une suite, une entresuite articulée, où tout serait articulation.
Les toutes articulations de l'œuvre nous renvoient aussi. Les toutes articulations de l'œuvre nous renvoient donc, je pense, à la définition qui est donnée de la discrétion, du disegno, par rapport à la discrétion, l'omazzo. Vous allez vous conformer à ma définition dite comme ça, parce que je ne trouve pas pour la référer exactement. Où il décide quelle est rythmique, c'est-à-dire cette vibration de la matérialité qui est présente dans toute architecture, et ces disegnos, ces lignes qui pénètrent par tout ce qui est discret. C'est lorsque on arrive à produire des œuvres qui sont capables, me semble-t-il, dans la matérialité, de produire des articulations et d'ouvrir sous des intentions nouvelles et d'ouvrir sous des usages nouveaux, que l'idée architecturale apparaît et que l'idée architecturale dépasse de loin la logique du concept et la logique universelle de la théorie. Je vais finir, c'est à ce moment-là, que l'architecture apparaît, comme l'idée architecturale, apparaît comme étant quelque chose qui dépasse dans son intelligibilité ouverte l'universalité de la théorie ou des concepts de la théorie. La logicité et même son immanence formelle. Je vais finir par une citation des Adorno qui revient sur ces questions-là. Il ne parle pas d'architecture, mais il me semble assez éloquent. Dit Adorno dans son esthétique, les œuvres d'art modernes, intégralement construites, révèlent brutalement l'insuffisance de la logicité et de l'immanence formelle. Pour satisfaire leur concept, elles doivent l'ignorer. C'est qu'affirme Clé dans ce journal. L'une des tâches de l'artiste visant effectivement une extrême logicité serait par exemple de réaliser la logique consistante à vouloir aller jusqu'au bout. Un compositeur comme Richard Strauss y fut étrangement insensible. Et de l'interrompre. D'interrompre la logicité. De la suspendre pour lui enlever son caractère mécanique, tristement prévisible. Je pense que seulement lorsqu'on fera passer avant les critères de jugement universel produits par la raison et l'entendement théorique, les jugements inventifs de l'architecte, on pourrait alors comprendre cette raison poétique des architectures qui interrompt la logicité conceptuelle, qui interrompt la logique de l'œuvre parce qu'elle va plus loin, parce que sinon on trouverait des machines infernales. Et pour ne pas trouver des machines infernales, l'architecture nous donne un bel exemple, car interrompre cette logicité, comprendre qu'il y a beaucoup plus de force dans l'idée architecturale que dans le concept abstrait et universel, c'est pouvoir comprendre qu'une architecture peut être une machine à habiter, mais aussi une machine à émouvoir. Merci. Je ne vais pas me poser de questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Successives qu'il peut avoir de l'usage de sa perception, simplement. Et je me demande si, in fine, ce dont tu parles, ce n'est pas plutôt l'expérience de la vérité de l'œuvre architecturale qui, à mon avis, ne peut pas se réduire à un schéma intentionnel. C'est-à-dire, comment tu concilies une expérience de la vérité de l'œuvre et puis un schéma intentionnel qui est simplement une manière d'éprouver phénoménologiquement la connaissance de l'œuvre architecturale, mais pas au sens d'œuvre artistique, si tu veux, pas la logique interne de l'œuvre.
Oui, moi, je penserais peut-être à critiquer juste, hein, du point de vue philosophique, mais je voudrais tout de même éclaircir les sources de la réflexion. Ce que j'essaye de dire, peut-être, ne part pas nécessairement d'un regard phénoménologique. Ce que j'essaye de dire, c'est que, d'ailleurs, là-dessus, je suis autant certains passages du texte des Barbaros, pas tout d'ailleurs, c'est une introduction personnelle, que certaines réflexions faites par exemple par Le Corbusier lorsqu'il parle de la manière dont il invente. Alors, pardon ?
Oui, mais je suis d'accord, mais c'est
même cette intentionnalité,
la peut-être.
Je te réponds. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il y a, me semble-t-il, dans la production architecturale, la poésie de l'architecture, une non-adéquation nécessaire entre les usages programmés et l'usage de l'architecture. Je pense que ceci a à voir avec une démultiplication, dans le sens strict du terme. Le mot démultiplication veut dire multiplication par ralentissement. Les choses se passent, se multiplient, mais aussi parce qu'il y a une espèce de temporalité qui est introduite. Et je dis que lorsque cette temporalité qui est introduite, cette temporalité permet de trouver de nouvelles intentions, de nouvelles intentions entre guillemets, de nouveaux usages, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'opérer dans l'œuvre, qui est propre à l'œuvre. Peut-être alors le mot intention mal employé, j'avoue que je ne suis pas philosophe de formation, donc peut-être le mot intention ici est utilisé dans un sens peut-être pas juste du point de vue philosophique, j'en sais rien, mais je l'utilisais dans le sens des tensions vers une fin, et pas dans un sens phénoménologique, et dans ce sens-là, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec l'idée de suspension de la cause finale. Et que dans ce sens, l'idée c'est de dire que dans l'œuvre architecturale, l'idée architecturale ouvre sous des nouvelles finalités, sous des usages, dans une temporalité nouvelle, et que c'est l'œuvre elle-même qui le fait au-delà, et dans ce sens, peut-être c'est ce que tu appelles la vérité de l'œuvre. Mais ce n'était pas du tout basé sur l'intentionnalité telle qu'elle est construite, me semblait-il, par le phénomène de l'œuvre. Moi, le mot intention, je le voyais comme tension vers une fin. Oui.
Il est sûr dans la notion de méditation de tous.
Oui.
Il y a une dualité forte, cet accord fort entre le bon usage, au départ, ça signifie bon usage, la considération par l'architecte du travail de l'artisan sur le chantier empirique. Parce que Cicéron appelle Zeus aussi, c'est l'homme aussi d'un peu de succession. Zeus, le travail, le savoir de l'artisan, fabrica le fait que l'architecte formalise ce travail et lui trouve sa ligne. À la fin de la définition de fabrica, il indique que c'est un compositum déformationniste.
C'est important, pardon, je t'interromps, excuse-moi. Même si c'est peut-être pas la question. Mais c'est pourquoi je parlais des matières, parce que je n'ai pas le temps de tout expliciter. Il n'y a pas de déformation sans le travail de la puissance. Et là.
Non, mais c'est que la question que je me pose, je me sens effectivement contre la forme du chapitre 2 du livre 1 du chapitre 2, c'est-à-dire les six catégories qui formalisent la fabrique. Et la forme de la fabrique, il y a un saut. Ce n'est pas une forme de même nature ontologique. Lui est une forme qui est une déformation.
suivant la conception aristotélicienne du livre de métaphysique, chapitre 1, l'autre est une forme qui est une forme mentale. Et moi j'aimerais savoir comment on peut articuler la première forme à la seconde forme. Je crois qu'il manque un moment là.
Non. Je sais m'expliquer.
Bon, j'ai compris, mais je vais essayer de t'apprendre. Bon, je vais essayer de le reprendre. Premièrement, enfin, j'étais obligé d'aller un peu vite, donc il y a des choses qui m'ont échappé. Et il est vrai que, à mon avis, il ne faut pas distinguer deux types de formes. J'intègre, dans les raisonnements que je suis en train de faire, j'intègre la continuité de la démarche fabricar-association. Donc pour moi, il n'y a pas des formes de chantier, ce que j'essaie de dire, et des formes de la raison qui viendront s'imposer après. Je dis qu'il y a invention architecturale en continuité avec la méditation du usage. Et je dirais plus. Je dirais qu'il y a trois étapes, si je veux dire. Et d'ailleurs, le Vitruve, pour suivre l'exemple qu'il donne, me semble, en tout cas dans le commentaire que fait Barbaro, tout à fait clair là-dessus. Il y aura une étape dans laquelle la fabrica apparaît à côté de la raciocination. Puis il y a la raciocination, il y a ces catégories qui servent pour définir quand c'est la forme. Et puis dans le chapitre 3, il y a, on revient sur l'édification. On revient sur la fabrica. Donc, à mon avis, il faut le voir ça dans son caractère processuel. Seulement, je pense qu'il faut faire attention des pas, si on ne veut pas, c'est tout le leçon de mon propos, si on ne veut pas laisser la définition vitruvienne comme une espèce d'archéologie pour comprendre comment ça se passait dans les chantiers romains, les architectes, les trois types d'architectes dont parle Choisy, l'architecte qui était dans le chantier, l'architecte de la machination, l'architecte décorateur, si on ne veut pas rester dans... Et face à la constance, me semble-t-il, des architectures, je veux dire, même si la constance de la pensée architecturale, il me semble qu'il faut foncièrement intégrer dans la production architecturale, cette idée que les matériaux avec lesquels l'architecte travaille, ce sont les techniques, mais que ces techniques finissent pour être une matière, finissent pour être des lignes qui sont à la fois alternativement lignes et matières, et que ceci ne peut pas se faire s'il est dans une action productive dans laquelle l'architecte est foncièrement obligé, à sortir pour avoir une vision du dedans de l'intérieur. Je pourrais dire que cette vision du dedans vers le dehors, pour poursuivre la réponse à toi, est peut-être l'essence même, chez Barbaro, parce qu'on parle de Vitruve, est l'essence même de l'idée architecturale. Car, lorsqu'il doit parler de la troisième des idées, iconographie, orthographie et scénographie, non seulement il élimine la scénographie, non seulement il élimine la représentation scénique, sinon qu'il parle du profil de section. Et lorsqu'il doit parler de ça, dans son commentaire, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Il dit, c'est peut-être la section, le profil, la scénographie, qui nous permet d'arriver à concevoir la perfection de l'œuvre. Il dit plus, c'est ça qui permet, il approche l'architecte au médecin, car il dit, il permet de comprendre, c'est ce que Choisy va appeler après, l'œuvre architecturale comme un organisme bâti. Et il va plus loin, il dit que ça permet de comprendre les rapports entre les parties intérieures et les parties extérieures. Donc, tu vois, cette idée du dedans vers le dehors, les dedans vers le dehors, transcende la fabrica et c'est continu dans l'invention de l'idée, et elle fait partie, à mon avis, essentielle de l'invention de l'idée architecturale. Dès là, toute la difficulté de faire de l'architecture. Toute la difficulté de faire de l'architecture, c'est qu'on peut très bien confondre. On peut très bien se laisser tenter par les concepts de la théorie, on peut se laisser très bien tenter par les images. Mais s'il n'y a pas cette pensée du nouvel dehors, s'il n'y a pas cette conception de l'organicité de l'œuvre, non, s'il n'y a pas cette idée de ces troisième idéa que Barbaro invente un peu comme ça, qui est partie essentielle, alors, à mon avis,
Il n'y a pas des possibilités de faire de la recherche. Donc, pour moi, je finis là, pour moi, il faut renverser et dire que le concept est moins fort que l'idée et que cette idée est d'autant plus forte en architecture qu'elle n'existe que lorsqu'elle est pensée du dans le lieu. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec. Parce que ta question suppose déjà un constat que tu fais toi, selon lequel je ignorais la ratiocination. Bon, ça renvoie le constat que je fais en te disant tu ignores la fabrique. Moi, je pense que ce n'est pas l'astronomie qui fait la beauté, la connaissance astronomique qui fait la beauté du fronton des Palladio. Ce n'est pas parce qu'il est astronome qu'il est bon architecte. Ce n'est pas parce qu'il y a des astronomes qui les soufflent dans l'oreille qu'il invente les façades des villas. Ça serait une vision conceptualiste à laquelle je ne crois pas. Je pense qu'il est, capable de faire ça parce qu'il est, quelque part, capable d'être architecte, donc producteur, de produire, de manipuler, de faire en sorte telle que, par des manières indirectes, on manipule la matière, finalement, de continuer, à partir de son pensée du dans le dehors, de le faire à travers une manipulation de la matière qui fait comme plasticien. Je pense qu'on aura tort à trouver dans les conceptualisations, dans l'encyclopédie dont tu prétends revenir, dans la connaissance encyclopédique, la sagesse de l'architecte. Je pense que l'architecte est plus sage, et là je ne dis pas dans le sens pianotéor, même si je ne dis pas. L'architecte est plus sage lorsque, à partir de cette manipulation de la matière, il sait travailler du dedans et du dehors. Les architectes dont tu fais mention, des aïeux plutothèques, ne sont pas des gens qui travaillent beaucoup le dedans et le dehors. Le rapport dedans et dehors, c'est un rapport qui passe par les lignes qui dessinent l'architecte, passe aussi donc par des lignes d'ailleurs que, pour Barbaro, sont aussi partie de la raciocination. Si tu lis le chapitre 3, lorsqu'il s'agit de décrire les catégories, l'idéa, il utilise, hein, les trois idées, il utilise exactement les mêmes termes qu'Alberti, à la lettre. Donc, commentaire du chapitre 3. Oui, il fait la synthèse de ce qu'il vient de dire. Je peux te renvoyer la page, mais ça va devenir un débat très personnel. Oui.
En tant qu'architecte, d'aboutir à ce qu'on peut appeler une théorie d'architecture qui pourrait fonctionner aujourd'hui, à partir d'une lecture de théories qui ont fonctionné et qui étaient. Et je trouve que ça gagnerait peut-être le travail qui est fait, à ne pas. Il y a des glissements, je trouve, qui sont un peu ambigus, pas beaucoup, hein, ce texte est très connu, ils sont un peu ambigus dans le sens où ils sont porteurs par ailleurs d'une série de concepts, de pratiques architecturales contemporaines que l'on connaît. Il y en a deux, du dedans et du dehors. Une autre, c'est toutes les articulations. Hein, si définit une architecture, suffit à définir un corps central d'une architecture moderne, très précise. Ça suffit, de voir après ça, la structure est redéfinie dans un système contemporain, moderne, sans rôle. Et je trouve qu'il y a bien qu'il y a un glissement et il ne peut pas forcément avec toutes les ambiguïtés de quelqu'un qui veut faire toutes les ambiguïtés françaises, de l'édifidienne, etc. Il y a des gens qui veulent faire une théorie d'architecture qui forcément sont entre philosophie et architecture et opérative.
Enfin, bon, plusieurs réponses. Enfin, il y a des réponses, je veux dire. Ben, lui, c'est une précision plutôt. La question de l'articulation, je pense que vous pensez à qui, là tu parlais d'architecture moderne, en tout cas, je pense que vous pensez à...
Non, je veux dire, définir toute architecture comme articulation est une définition sur le
système
de l'espace libre, etc. Tout devient articulation. Qu'est-ce que vous pensez bon. C'est quand on arrive à des morceaux d'architecture précis, tout architecte devrait penser en tant qu'elle articule ceci, cela, c'est une chose. Et lorsqu'on arrive sur des modèles, sur des morceaux de forme, sur des bases,
bon, on est dans ma réponse. Premièrement ma réponse commence par une précision. Ça commence par une précision. Je pense que la lecture que tu viens de faire, c'est une lecture erronée. Attends, deux secondes. Sur l'articulation. Non. Laisse-moi la première, c'est une précision. L'idée de l'architecture est une. L'idée de l'architecture, tout est l'articulation, c'est un précis. C'est pas du tout prise de l'architecture moderne. C'est prise chez Alberti. Alberti dit la partition, les articulations, c'est la partie centrale et essentielle des six parties. C'est partiellement lui qui le dit, j'avais donné des exemples. Il y a Lomazzo, lorsqu'il parle, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas trouvé, lorsqu'il parle du rythme et du saignant, il revient sur cette question de la discrétion et de l'articulation. Donc, ce que je trouve assez intéressant d'ailleurs, c'est que ce qui conduit à penser une forme, un type d'architecture, peut-être à l'origine un autre type d'architecture. Ça, c'est une première réponse. C'est pas mal, je suis bien content de faire cette précision pour montrer qu'à mon avis, parfois, il y a des critères qui peuvent expliquer les architectures diverses, mais qui finalement sont constantes. Deuxièmement, j'essaye, et ça c'est paradoxal peut-être, mais c'est comme ça, j'essaye de dire que la théorie ne dit pas tout, et que la théorie ne peut pas dire tout. Tout mon travail des théoriciens, c'est de dire que faire une architecture en pensant du level dehors est beaucoup plus théorique que les théoricistes des théoriciens qui parlent d'architecture. J'essaye de dire, comme dirait Deleuze, qui est un philosophe d'inventer des concepts, et architecte, aux artistes, d'inventer des idées, etc. Et donc, le seul but, mais pour ça, il faut construire tout un raisonnement, c'est de dire que autant il y a un fétichisme des images, autant il y a un fétichisme de la théorie. Alors, c'est ça, c'est tout ce que je veux dire, c'est ça. Et que, en fait, tout ce que je dis, c'est pour essayer, et là, quelque part, je coïncide sur des choses qui étaient dites par Pierre, même s'il y a des divergences, qu'il est nécessaire de refonder le savoir architectural, non pas pour le restaurer, je ne parle pas de la restauration, sinon pour l'instaurer. Et parce que je pense que le savoir architectural, c'est un savoir qui n'est pas réductible à la théorie, c'est un savoir poétique, et c'est un savoir dont les effets sont inévitablement changeants. Et je pense qu'essayer d'étiqueter les formes architecturales, essayer de chercher des néos, essayer de renvoyer l'architecture à des formalités faites, c'est un défaut sur lequel mon travail théorique essaye de mettre en garde. Essaye de dire que la forme, c'est un aboutissement de toute une série de choses, techniques, tout ce que je viens de dire, et n'est pas l'origine. Et que pour comprendre ces processus dans lesquels on aboutit à la forme architecturale, il faut, quelque part, éviter de danger premier, collé aux images, deuxième danger, collé à un théoricisme. Ça, c'est ta lecture, je ne peux rien faire. J'essaie de ne pas les appeler. J'essaie de ne pas appeler. Si je les appelle, c'est une faute. Parce que alors, je me trahis, mais j'espère ne pas les appeler. Hein? Bon. Dernier, parce que sinon.
C'est aussi l'étendue de ce qui fallait exister. Comme s'il était établi. Peut-être que si on évacue une certaine responsabilité de l'architecture, qui laisse entendre qu'elle peut résoudre par des modifications des usages, par invention, par passage à l'acte, une réflexion qui est politique, la prudence et la discrétion ont également un sacré rôle à jouer. Et ça prend de plus en plus. Et une réflexion, c'est une réflexion qu'elle peut notamment amener, au renoncement. Et dans cette réflexion, l'architecte n'a pas, comme tel, c'est par un mot, une espèce de compétence privilégiée. Et en même temps, comment on peut instruire cette prudence à un moment où, tout ce qui concerne les données est dans la vie.
Je sais pas. Enfin, je sais pas si je devais te répondre tel quel, parce que j'en sais rien. Lorsque je dis la méditation de l'usage de l'architecte dans sa production n'est pas programme, je veux dire qu'il dépasse le programme. Je veux dire, il dépasse le programme, il met un cri. Je pense que il ouvre sur des choses non programmées. S'il n'y a pas d'ouverture sur des choses non programmées, il n'y a pas d'architecture. Et je pense que aujourd'hui, on peut traduire ça, parce que c'est aussi. Je ne suis pas contre les programmateurs. Ce que je veux dire. Attends. Non. Voilà. Donc, je pense que, bien sûr, la réponse que l'architecte, ou que n'importe qui doit donner, c'est justement les dépassements de tout ce qui est programmé. L'architecte est tenu à répondre à l'usage, mais pour arriver à un dépassement. Et je pense que le rapport avec le politique s'épasse justement dans cette ouverture sur des nouveaux usages. Je veux dire, dans cette ouverture que l'architecte permet. Si un rapport avec le politique qui ne passe pas par la représentation, il passe justement par la possibilité qu'on a l'ouverture à des choses programmées, il permet comme mise en cause et comme espèce de manière dont l'architecture peut être le lieu où la mise en cause se fait, comme l'architecture peut être aussi le lieu où cet échange avec les politiques se fait. Mais le rapport avec les politiques, à mon avis, est très étroit, et sur lequel je ne vais pas me tendre là, parce que c'est un sujet. Le rapport avec les politiques n'est pas seulement la résistance au programme, c'est justement la proposition des ouvertures sur des nouveaux usages. Et je pense que dans ce sens, il n'y a pas un rôle privilégié de l'architecte, ce n'est pas l'architecte, les architectures elles-mêmes devraient le faire. Oui. Il ne faudrait pas confondre l'architecte et les architectures. Ce n'est pas une question corporatiste des architectes, c'est savoir l'architecture en tant que quelque chose que je dis très, très, très petite et presque inexistante. Bon, je ne veux pas m'attarder plus, je laisse la parole à monsieur.
Con i presenti e avevo pensato a un'altra comunicazione più pertinente al tema del convegno sul giudizio appunto in architettura e avevo pensato a una comunicazione relativa alla funzione della fotografia in architettura come appunto mezzo critico dell'architettura, però purtroppo dico ecco sommersi da le attività didattiche, io ho una cosa come 1000 studenti circa, quindi non ho potuto fare in tempo, quindi non ho avuto il tempo di stenderla. Allora ho utilizzato un lavoro in corso che da un anno circa abbiamo impiantato insieme a due miei collaboratori, che qui voglio ricordare, uno si chiama La Forgia e un altro Rizzoli. Un lavoro in corso che riguarda una ricognizione critica usando gli strumenti della semiotica interpretativa di alcune edizioni critiche dell'architettura di Vitruvio allo scopo di restituire a Vitruvio quel che è di Vitruvio e ai vari commentatori interpreti appunto da fra Giovanni II, Cesariano, Barbaro, Perrot e Galliani Amati. Abbiamo scelto questi sei, queste sei edizioni. Questo perché noi siamo convinti che ciò che ha contribuito maggiormente alla popolarità di Vitruvio e del suo trattato è stato lo smarrimento di quelle tavole che hanno lasciato aperto il campo all'interpretazione del testo. Le immagini grafiche così hanno potuto rivitalizzare la comunicazione instaurata dal trattatista moltissimi anni prima. Ogni edizione dei 10 libri di architettura, a partire da quella di Fra Giocondo del 1511, si differenzia dalle altre soprattutto dal tipo e dal numero di immagini a commento dell'antico testo. Oltre a raffigurare quei luoghi dove Vitruvio rimandava a un disegno, i suoi commentatori hanno disegnato molti altri passi del testo a dimostrazione del loro preciso intento di interpretarlo, di fissare il significato tramite il disegno. Si può quindi dire che a raffigurare il trattato significa significa interpretare il testo, reagire alla povertà enunciativa, creare una moltiplicazione di senso. In questa moltiplicazione di senso si può cogliere la capacità di circolazione, di trasformazione e diffusione di questi testi. Attraverso la formazione di un nuovo senso, ogni edizione ha assunto la propria autorità, un proprio spessore comunicativo e una influenza storica nel campo architettonico. Ognuno di questi testi ha una sua rilevanza, rappresenta un metodo, un processo di costruzione di significati architettonici. I disegni presenti in questi testi, oltre a rappresentare un commento grafico del linguaggio verbale, rappresentano soprattutto le diverse possibilità di apparizione del discorso. Essi segnalano quali temi del trattato sono rimasti costanti negli anni, quali sono apparsi in determinato momento, quali addirittura sono scomparsi. In questo gioco di apparizione e di scomparsa delle immagini grafiche si evidenziano quali sono i corrispettivi discorsi che emergono nelle varie edizioni, poiché un disegno racconta qualcosa, descrive un pensiero, si traduce in enunciato. È possibile dunque intendere il linguaggio verbale come intersistemico, poiché può esprimere le leggi formali del disegno, può tradurre una rappresentazione grafica in discorso e viceversa, come ha osservato qualche anno fa a questo proposito Cesare Segre, cito fra virgolette: il linguaggio assume una funzione intersistemica quando esso esprime con appropriazione e metafora le leggi formali immanenti nel quadro e le informazioni sulla concezione del mondo. Non è comunque la verbalizzazione a istituire la semioticità della pittura. Il linguaggio è soltanto il mezzo privilegiato per comunicare osservazioni e deduzioni sui sistemi modellizzanti. Di conseguenza possiamo dire che un disegno può essere letto come un discorso con un suo preciso ordine. Anch'esso si costruisce secondo precise regole comunicative, così come avviene per il sistema linguistico. Le varie edizioni dei 10 libri dell'architettura sembrano manifestare questo fenomeno, poiché ogni testo di questo insieme ha cercato di cogliere il vero per poter escludere i suoi precedenti. Il commento figurativo è la chiara espressione di limitazione del discorso, di esclusione di un possibile evento aleatorio. Le immagini riguardanti il corpo umano iscritto nel quadrato e nel cerchio come modello di proporzione appaiono nelle varie edizioni esaminate in forma rigidamente organizzata. Questo preciso ordine creato dall'autore cerca di limitare la possibilità di reinterpretare il passo vetruviano che si riferisce a questo argomento e quindi si manifesta attraverso una immagine che propone un preciso ordine di lettura. Ne è un esempio le due immagini del Cesariano che appunto rappresentano il corpo umano iscritto nel cerchio e nel quadrato e che lo raffigurano secondo precisi rapporti matematici. Pertanto, queste due immagini resteranno per lungo tempo il modello proporzionale a cui si rifà la disciplina architettonica come anche la pittura e la scultura. Si devono quindi considerare questi disegni non tanto come serie continua che cerca di illustrare sempre più esaurientemente un significato originario, bensì come eventi di una serie discontinua. Pur potendoli considerare come una serie in quanto illustrazione di uno stesso argomento, tuttavia ognuno di essi è autonomo e va visto come pratica che si incrocia e si affianca ad altre pratiche, ma che anche la ignora e l'esclude. Secondo questa chiave di lettura, le figure sono delle possibilità di apparizione del discorso, una formazione discorsiva che, mostrando se stessa, manifesta le sue cesure e la sua temporalità, la propria descrizione sistematica di un oggetto. L'analisi discontinua dell'universo discorsivo promossa da Foucault permette di cogliere la genesi di un concetto e di un disegno. Partendo dall'orizzonte teorico costituito da passi vitruviani, i disegni rappresentano i modi in cui questi si sono concettualizzati e gli oggetti rappresentati diventano frammenti della disciplina architettonica. Ogni immagine contribuisce alla costruzione dello statuto disciplinare e mostra contemporaneamente le possibili differenze, i limiti e le regole di cui fa parte. Se consideriamo le immagini relative ad uno stesso topos dell'architettura prese da diverse edizioni, possiamo constatare come siano diverse tra loro nonostante raccontino lo stesso argomento. Ogni immagine di questa serie propone una propria interpretazione, esclude e enfatizza alcuni caratteri del messaggio che trasmette. Questo non è un fattore casuale, ma risponde all'ordine del discorso argomentato da Foucault. Infatti, nel diversificarsi tra loro, esse offrono precisi contenuti ideologici costruiti secondo una propria struttura grafica. Questo fenomeno potrà essere ravvisato per quanto riguarda la serie di immagini sulla descrizione della capanna originaria. Sebbene questa immagine sia presente in tutte le edizioni vitruviane da noi analizzate, non sempre riproporrà una stessa sequenza di azioni, anzi, ognuna di esse orienterà il lettore verso un proprio significato. Mi accende per questo. Questa differenza spesso rivelerà i diversi principi insiti nella disciplina architettonica, mentre invece di pensare all'architettura come disciplina che procede secondo l'asse coscienza-conoscenza-scienza, è opportuno riferendoci proprio al pensiero di Foucault, delle More Chaux, guardare ad essa come disciplina che si forma attraverso l'asse pratica discorsiva sapere-scienza. Secondo quest'asse, le varie formazioni discorsive, cioè i disegni, apparendo entro i limiti e le regole dell'architettura, ne hanno mutato il sapere disciplinare. La proliferazione di immagini ha finito per cambiare l'orizzonte teorico, ampliandolo e addirittura cambiandolo in maniera dirompente. L'architettura come disciplina che controlla la produzione del discorso fissa i limiti e detta le regole dell'emergere di quest'ultimo. Essa si trasforma in virtù di quegli eventi aleatori che sfuggono al suo controllo e che così appaiono all'interno del suo proprio discorso, mutandolo. Si può dedurre che le fratture all'interno di una disciplina avvengono in quei periodi in cui le regole, i paradigmi che la sorreggono sono ben consolidati. Si presume che questo fenomeno succeda poiché in periodi di debole formalizzazione disciplinare gli eventi discorsivi sono assimilati per dare più corpo a tale disciplina. Quindi è improbabile che un evento sia riconosciuto come aleatorio in altri momenti storici caratterizzati da un solido statuto disciplinare, la produzione del discorso è ben controllata, tanto da non permettere formazioni discorsive che mettano in crisi i paradigmi riconosciuti validi. Tuttavia, è proprio in questo spazio che si manifesta l'evento aleatorio. Quel discorso che invece di rafforzare lo statuto nel quale si è prodotto, lo rende instabile e forse lo rovescia. Emblematico a questo proposito è il testo di Clopperot che viene eseguito in periodo storico rigidamente formalizzato da regole e principi architettonici, quale è quello classicista dell'epoca di Louis XIV. Quell'edizione vitruviana, così come ha sottolineato anche